Bonjour Laure Franek.
Bonjour Odile, bonjour aux auditeurs.
Donc, histoire d'archives, c'est aujourd'hui avec un thème sur l'eau.
Oui, parce que les archives s'apprêtent à publier un livre qui est le fruit de l'exposition qui est toujours en cours aux archives, qui s'appelle « La Haute-Provence au gré du temps », qui propose de comparer des photographies prises soit à la fin du 19e ou au début du 20e siècle et de les comparer avec des clichés pris sous le même angle dans les mêmes villages et donc de mesurer à la fois les changements mais aussi les permanences dans nos paysages et notamment dans les, par rapport aux villages à proprement parler et leur environnement proche. C'est une exposition qui a rencontré beaucoup de succès et beaucoup de visiteurs nous ont demandé si nous allions faire un catalogue. C'est chose faite, on est en train de le boucler, il sortira avant Noël. Voilà, donc avis aux amateurs de cadeaux pour la fin d'année. Et donc il a de multiples contributeurs. Et il se propose vraiment de... Alors, il ne s'agissait pas d'être exhaustif. Nous n'avons pas fait une notice, enfin une double page par village basalpin. C'était difficile déjà en termes de volume. Et puis, il fallait quand même que les clichés aient une certaine qualité, aussi bien les clichés anciens que les clichés d'aujourd'hui. Or, on s'est rendu compte que ce n'est pas si facile aujourd'hui de prendre une photographie sans voiture. Il y a le problème de la végétation aussi qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a repris quand même le pas sur un certain nombre de nos paysages, y compris en ville, où des fois les arbres ont pris un peu d'ampleur. Et voilà, alors c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu prendre des photos en plein hiver, mais tous les villages basalpins ne sont pas très accessibles en plein hiver pour éviter le problème du feuillage. Voilà. Donc, alors j'ai pas en tête le nombre exact de villages, mais on doit être à peu près à 70 notices. Donc, ça se présentera sous forme d'une double page pour chaque village. La page de gauche qui met en regard le cliché ancien avec le cliché d'aujourd'hui, pris sous le même angle. Hein, c'est un procédé, un photographie qui s'appelle la refotographie ou encore photolalie. Et la page de droite qui est la notice qui soit prend le prétexte de la comparaison des clichés pour raconter une histoire, soit qu'il part sur toute autre chose, parce qu'il n'a pas toujours été facile, toujours en restant sur le village évidemment, il n'a pas toujours été facile d'exploiter directement ce que pouvaient nous raconter les images. En tout cas, c'est aussi le propos et aussi de donner à lire tout ce qu'on peut trouver comme information relative au village dans les archives conservées dans le dépôt des archives des Alpes d'Haute-Provence. Parce que nous avons aussi bien les séries qui proviennent des préfectures que les séries communales recèlent énormément d'informations pour qui veut trouver l'origine d'un monument, d'une place, d'une fontaine, etc. Donc toutes les notices sont évidemment sourcées, c'est-à-dire font référence à quel document d'archives nous avons pu utiliser pour rédiger la notice. Et voilà, j'espère que ça donnera envie aux gens de raconter l'histoire de leur village, hein, parce qu'il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire. Nous avons reçu récemment Mathieu Sieille, qui est un historien qui a fait la monographie de son village, celui de Saint-Benoît, que nous avons aidé à publier l'année dernière. C'est Mathieu Sieille qui le diffuse directement, mais il est consultable aux archives départementales. Et il est venu faire une conférence justement aux archives pour expliquer comment il avait travaillé, notamment à partir du cadastre, à partir des recensements de population, qui livrent déjà beaucoup d'informations sur l'évolution d'un village. Voilà, donc voilà, avis aux amateurs et aux chercheurs et historiens amateurs. Voilà.
Donc ça sortira avant Noël,
oui,
c'est ça ?
Oui, alors on va faire une présentation de l'ouvrage en présence du maximum des auteurs qu'on aura pu réunir le 18 décembre. J'espère que je ne dis pas de bêtises, si c'est bien un jeudi, je vérifie ça tout de suite dans mon agenda. Voilà, et après l'exposition, on va la laisser présentable.
C'est moi qui appuie
sur le micro. Non, j'ai une bêtise, c'est le jeudi 12 décembre. Voilà. Jeudi 12 décembre à 18h, il y aura donc la présentation au public et à la presse de l'ouvrage qui a priori portera le même nom que l'exposition, oui. La Haute-Provence au gré du temps. Et l'exposition va rester visible encore, à mon avis, facilement tout le semestre, le premier semestre 2020. Voilà, histoire de faire écho à la publication qui sera en vente. Hein. Voilà.
Très bien.
Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas pour moi de passer en revue l'ensemble des villages qui vont être présentés, mais j'ai plutôt choisi une thématique qui est une thématique vraiment prégnante dans les Basses-Alpes, c'est la thématique de l'eau. Alors l'eau sous plein d'aspects, hein. Il y a l'eau en tant que catastrophe naturelle, les crues, le problème aussi du franchissement des cours d'eau qui sont des vraies barrières naturel. Il y a aussi le problème de l'alimentation en eau. Vous savez que nous avons la chance aujourd'hui d'ouvrir simplement un robinet oui. Et d'avoir de l'eau qui coule, mais ce n'a pas été le cas pendant très longtemps. Et ça a donné lieu à une correspondance administrative assez intense entre les maires, les préfets, les services des ponts et chaussées qui intervenaient dans l'élaboration des projets. Donc ça, c'est une thématique aussi à part entière. Et puis c'est aussi l'installation des fontaines, hein, des fontaines publiques, les lavoirs, les usages qu'on en avait. Aujourd'hui, les fontaines sont de simples éléments décoratifs lorsqu'elles sont encore en eau, ce qui n'est même pas toujours le cas. Et on oublie complètement que ce n'était absolument pas des éléments décoratifs. Mmh. Ça l'était aussi, mais c'était avant tout parfois l'unique point d'eau courante du village. Donc voilà, rappeler un petit peu ces choses. Et c'est vrai que dans l'ensemble des notices qui sont proposées dans l'ouvrage à paraître, la thématique de l'eau revient assez régulièrement. Ce n'est pas l'unique thématique, hein. On aborde des sujets aussi variés que les postes, le chemin de fer, les écoles. Il y a un article assez amusant sur une maîtresse d'école un peu sévère à La Sylve, où on a pu consulter certains commentaires qu'elle faisait sur les travaux de ses élèves. Voilà, il y a beaucoup évidemment l'église, hein, parce que c'est des marqueurs du paysage des villages. Le problème de l'horloge aussi, c'est pareil, aujourd'hui tout le monde a une montre. Mm-hmm. Autrefois, il y avait une horloge la plupart du temps sur le clocher de l'église. Et c'était très important pour un village d'avoir une horloge. Et avant l'horloge, il y avait des cloches. Voilà. Donc tous ces petits thèmes là, sont l'occasion de dresser un paysage qui n'est pas exhaustif, hein, mais qui est plutôt allusif de ce que pouvait être la vie dans nos villages tout au long du 19e et jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Hein. Voilà. Et puis de mesurer, comme je l'ai dit, les permanences et les différences. Alors, moi, à regarder les photos, alors c'est vrai qu'il y a le choix qu'on a fait aussi. Hein. Comme je vous l'ai dit, on a aussi choisi des beaux clichés. Et moi, je trouve que quand on regarde les photos, on mesure plus finalement les permanences que les changements. On se rend compte que nos villages n'ont pas tant changé que ça, si on évacue évidemment les destructions, la signalétique, hein, qui est quand même très présente aujourd'hui, la signalétique autoroutière, les enseignes, etc. Même si à l'époque il y avait beaucoup d'affiches un peu partout, c'était parfois très chargé aussi. Voilà, puis les voitures, c'est surtout ça qui change en fait. C'est la place de la voiture qui a complètement mangé l'espace. Et c'est vrai qu'il est aujourd'hui difficile de prendre une photo sans avoir l'inévitable voiture qui vous cache la moitié de la façade de ce que vous voulez voir ou qui encombre la place que vous aimeriez bien examiner un peu plus attentivement. Voilà. Donc j'espère que le public répondra nombreux, mais je pense que oui, parce qu'il y a un vrai intérêt. Déjà, on l'a vu dans le cadre de l'exposition, et puis pour le livre, ça va être un joli ouvrage et plaisant à lire, parce que, comme toujours, hein, les archives n'ont pas vocation non plus à faire des publications de type universitaire. Hein, c'est pas du tout notre propos. C'est vraiment l'idée, c'est de valoriser les fonds que nous conservons dans nos collections, les fonds d'archives, et de donner à découvrir et donner le goût de l'histoire aussi, hein, tout simplement. Donc essayer de comprendre d'où on vient et peut-être du coup donner des clés pour savoir où on va. Ça, c'est un autre débat.
Donc ouais. Vous demandez la participation des personnes pour vous envoyer des clichés ?
Ah non, les clichés, on les a déjà en fait.
Ah oui, hein. D'accord.
Ah oui. Les clichés, c'est vrai qu'on aurait pu faire quelque chose d'un peu collaboratif. Non, alors en fait, le point de départ de cette exposition, c'est une suggestion des deux médiatrices de notre service éducatif qui s'étaient rendues compte que c'était un thème qui intéressait les écoles où elles intervenaient, parce que vous savez que notre service éducatif propose un certain nombre d'ateliers, soit aux archives, soit directement en classe. Et ce sont les enseignants qui demandent à travailler sur tel ou tel thème. Et c'est vrai que la vie quotidienne autrefois, l'évolution de l'environnement proche des enfants, notamment pour les écoles primaires, sont un thème très, très souvent demandé. Donc elles se sont dit... comme on a un fonds photographique, des fonds photographiques importants, se sont dit, déplaçons-nous dans le département et allons à la rencontre de ces angles de vue et voir ce que ça donne 100 ans après. Voilà, donc le point de départ, c'est vraiment leur idée, ce travail d'exposition. Et après, c'est vraiment, pour le coup, poussé par le public, les gens qui viennent voir l'expo nous disent, mais il n'y a pas de catalogue, ils sont très déçus. Donc, on a dit, oui, mais il faut l'écrire, le catalogue, parce qu'on ne peut pas non plus faire qu'un livre uniquement de photos. Il faut aussi, donner à comprendre des photos et puis comme je le dis, exploiter nos archives. Hein, parce que nous ne sommes pas un musée, nous sommes bien un dépôt d'archives. Voilà, donc non, on n'a pas sollicité le public. Après, on a quand même certains visiteurs qui nous ont dit « Ah là, il y a une erreur enfin, ». Après, il y a toujours des discussions. Mmh. Alors, on a par exemple un grand débat sur le moulin de l'Urse. Est-ce que c'est vraiment le moulin de l'Urse et tout ? Bon, oui, c'est bien le moulin de l'Urse, bon, vous verrez dans la notice. Voilà, mais bon, c'est le principe même de toute publication qui forcément suscite des réactions. Mmh. Voilà. Donc voilà, donc moi ce que je vous proposais là, c'est de pas de passer en revue l'ensemble des villages. Donc puisque là, jusqu'à présent, on part d'Aiglun et nous allons aller jusqu'à Volx, hein, parce que évidemment on a fait une présentation alphabétique. Il y a encore quelques notices qui sont en cours de rédaction. Là, j'ai vu hier une de nos deux médiatrices qui avait un petit regret, qui aimerait travailler sur Josier et son cadran solaire. Donc, elle était encore en train de rédiger une notice hier soir. Voilà. Donc, par exemple, simplement, donc, sur le thème de l'eau, il y a quand même une petite dizaine de notices qui tournent autour de cette thématique-là, de près ou de loin. Donc, par exemple, pour Anote, on a exploité un cliché ancien où on voit le lavoir d'Anote et donc on explique en fait, comme je le disais, les lavoirs c'était une nécessité absolue. Aujourd'hui on les regarde à peine, il faut quand même dire ce qui est. Et éventuellement quand il fait très chaud on va s'asseoir à côté, il y en a plein qui sont plus en eau pour des problèmes pour éviter que les enfants tombent dedans, enfin voilà, il y a plein de normes de sécurité, il y a le problème aussi de l'aspect, est-ce que l'eau est potable encore ou pas. Mais autrefois, c'était vraiment un lieu d'une grande nécessité et en même temps un lieu de sociabilité, parce que les gens, surtout les femmes, il faut bien le dire, c'était quand même aux femmes que revenait la tâche de laver le linge. Voilà, c'était pas forcément le plus facile, mais quand on regarde les clichés, il n'y a pas que des femmes en fait qui sont près du lavoir, il y a des hommes qui sont pas franchement en train de laver mais qui tournent autour du lavoir, il y a des enfants aussi, donc c'est vraiment un lieu où les langues se délient, où ça discute. Voilà, et là typiquement dans un certain nombre de villages, souvent la problématique a été de couvrir le village, de couvrir le lavoir. Parce que souvent, il était à l'air libre, ce qui évidemment posait des problèmes quand il faisait soit très chaud, soit qu'il pleuvait, soit qu'il neigeait, le lavoir n'était plus accessible. Donc il y a un certain nombre de correspondances administratives où le débat tourne autour du il faudrait couvrir le lavoir, donc il faut trouver l'argent, il faut faire des plans, il faut trouver évidemment l'entrepreneur qui va faire ça. Donc c'est vraiment un sujet très très important. Et qui dit lavoir dit évidemment de l'eau en continu. Donc là, ça pose le deuxième problème, celui de l'alimentation en eau. Donc là, il y avait le problème de trouver les sources. Parfois, il fallait négocier avec les propriétaires pour passer les canalisations dans leur terrain. Donc ça veut dire vente de terrain. Il y a vraiment des fois des dossiers énormes sur ces questions-là. Et entretien des conduites. Vous savez que les conduites pouvaient être en terre cuite, pouvaient être en bois. On a des villages où c'était des conduites en bois pour des problèmes de coûts ou d'approvisionnement du matériau. Donc c'était un vrai enjeu d'arriver à maintenir cette alimentation en eau en permanence. Et puis vous le savez, la sécheresse, ce n'est pas qu'un problème d'aujourd'hui, notamment dans notre département. Il y a un certain nombre de villages qui souffrent de du problème de la non-permanence de l'alimentation en eau sur l'année et notamment en été. Alors typiquement, à Fort-Calquier, ça a été un problème vraiment très très important, mais ce n'est pas le seul village. Alors Fort-Calquier en particulier, à cause de sa topographie, hein, c'est un village avec une colline assez importante, il y a une déclivité assez importante hein, à Fort-Calquier. Donc évidemment, les gens qui habitaient un peu sur les pentes, eh ben, ils n'avaient pas toujours de l'eau. Et puis ils avaient un problème de source, hein, tout simplement, la source n'était pas assez importante. Et donc les maires se plaignent qu'il y a parfois plusieurs mois sans eau du tout. Faut imaginer, quoi. C'est vraiment. Alors, il y a ça, et puis le problème aussi de la qualité de l'eau. Et aujourd'hui, on se plaint beaucoup du goût de l'eau du robinet, mais enfin, jusqu'à présent, on ne s'empoisonne pas en buvant de l'eau du robinet. Mais il se trouve qu'au 19e, il y avait des épidémies, notamment de typhoïdes, hein, de fièvre typhoïde très importante liée à l'eau. Et très clairement, c'était le problème des conduites qui étaient mal entretenues. Il n'y avait pas les mêmes normes. Hein. Donc là aussi, notamment à Fort-Calquier, quand ils ont décidé de s'attaquer vraiment au problème de l'eau en disant qu'il fallait vraiment assurer de l'eau de manière continue à tout le monde. Je n'ai pas en tête, mais c'est au moins 50 ans de correspondance administrative, d'études, contre-études, trouver les sources, enfin, vraiment, après trouver les moyens. Puis après, il y a la Grande Guerre qui, évidemment, vient freiner tout ça, parce que ce n'est plus la priorité. Donc les travaux prennent du retard. Donc c'est vraiment un sujet à part entière qui occupe énormément les édiles de la ville. Et oui, je voulais juste revenir sur l'histoire de la qualité de l'eau. Il y a eu énormément de procédés qui ont été mis en place pour éradiquer la toxicité éventuelle de l'eau. Donc moi, j'ai découvert des choses. Hein. J'ai découvert qu'on pouvait traiter... Donc on est au début du 20e, on pouvait stériliser l'eau par ultraviolet. Hein. Après, ils ont essayé la javelisation. Bon, ça, on connaît plus. Alors, il y a même un terme qui m'a fait un peu froid dans le dos, c'est la verdunisation. Vous comprenez bien d'où ça vient, du terme de verdun, parce qu'on utilisait le chlore. Et ça a été utilisé entre 1912 et 1932. Donc, vous voyez, on a essayé plein de techniques, lesquelles marchaient le mieux, les problèmes de coût, de facilité d'entretien, etc. Voilà. Aujourd'hui, quand on goûte l'eau, on voit que c'est le chlore qui a finalement été retenu pour la postérité, sans doute pour la facilité d'usage et les coûts. C'est ça qu'on utilise aujourd'hui, à ma connaissance. Voilà. Et donc, vous voyez, pour ce qui est de Fort-Calquier, dès 1882, le conseil municipal va mandater des études à un professeur de généalogie, c'est l'archiviste qui est un professeur à la faculté de Marseille pour chercher des nouvelles sources. Donc, bon, très vite, il trouve des sources, des nouvelles sources, hein, parce qu'évidemment, il y avait déjà de l'eau. Hein. On sait qu'il y a la fameuse très belle fontaine qui est sur la place Saint-Michel de Fort-Calquier. Elle date du début 16e, hein, donc très tôt, il y a des amenées d'eau avec le fameux aqueduc de la Bonne Mère, hein, de Marseille, du coup, j'ai pensé à la Bonne Mère, un aqueduc, voilà, je vais retrouver le... La mère des fontaines, voilà. Le nom quand même est évocateur. Donc, dès le 16e, il y a une fontaine à Fort-Calquier, il y a de l'eau qui arrive, mais ça ne suffit pas. Fin 19e, la population a d'autres usages, il y a d'autres demandes, et donc il faut faire autre chose. Donc, dès 1882, le conseil municipal mandate des études. C'est très long, ça prend du retard, comme je l'ai dit, à cause... des négociations avec les propriétaires, il y a la Grande Guerre qui vient retarder tout ça. Et donc, en fait, il faut attendre 1923 hein, pour qu'il y ait un service de distribution d'eau qui soit affermé à un entrepreneur des travaux publics. Et donc, on sait qu'en 1924, il y a 298 installations en faveur des particuliers. Ça veut dire que l'eau arrive jusqu'au domicile des Fort-Calquériens, ce qui est une révolution. Les gens ne sont plus obligés d'aller à la fontaine pour aller chercher de l'eau. Hein. Mais il reste encore 73 installations particulières à réaliser. Et donc, il faut savoir que dès le début, évidemment, les propriétaires payé. Hein. Je veux dire, c'était pas un service totalement gratuit. Il y a eu et là, c'est un affermage qui n'est pas public, hein, qui est cédé à un entrepreneur. Mm-hmm. C'est assez intéressant de voir que c'est comme les chemins de fer. Hein. C'était au départ des sociétés privées, puis ça a été nationalisé. Aujourd'hui, on a un petit mouvement inverse vers le privé. Voilà, rien n'est figé dans le marbre. Voilà, donc un vrai sujet qui n'est pas que pour Forcalquier. Il y a bien d'autres villages qui ont eu à faire à cette question qui était très très problématique pour eux. Voilà, donc là, j'ai parlé de l'eau en termes de par rapport aux fontaines, etc. Je crois qu'il faut maintenant évoquer l'eau comme à la fois comment expliquer ? Je veux parler des moulins, en fait. C'est-à-dire que l'eau, c'est effectivement pour l'agriculture, mais c'est aussi pour les industries. On oublie que la force hydraulique a été énormément utilisée, et il n'y a pas si longtemps que ça, pour les moulins à farine, mais pas seulement. On a des exemples de scieries aussi qui sont alimentées avec des cours d'eau. Quoi. Donc on a ça par exemple à Alons. Hein. À Alons, on a une demande d'un entrepreneur, alors j'essaie de trouver la date pour pas vous dire de bêtises, en 1864, voilà, c'est un propriétaire qui est dans un hameau proche de Alons, qui est Vauclose, il a une propriété qui s'appelle Vauclose, qui demande au préfet d'établir une scierie à eau, donc du coup il a besoin de dériver un torrent, qui est le torrent d'Ivoire. Et donc, il sollicite le préfet pour avoir cette autorisation-là. Alors, pourquoi on sollicite le préfet ? Ben, parce que dès que vous faites une dérivation, vous amenuisez le débit de l'eau et potentiellement, vous pouvez gêner des gens qui sont en aval. Donc, le préfet intervient. En fait, il se trouve que ça ne gêne personne et que du coup, l'autorisation est accordée. D'autant que, évidemment, qui dit dérivation d'eau dit installation d'une nouvelle usine et donc dit prospérité économique et développement économique. Donc, évidemment, le préfet accepte. Alors, c'était une usine qui était destinée à fabriquer des planches de bois de pin, des traverses tournées pour des chaises en bois de hêtre. Voilà, c'est assez précis. Voilà, et donc c'est intéressant parce que Alons, aujourd'hui, quand on y va, c'est toujours la question moi, que je me pose quand je vais dans certains villages, si on se demande un petit peu comment, ce que font les gens, en fait, de quoi ils vivent, etc. Bon, il se trouve que là, il y avait quand même... alors, je sais pas, malheureusement, j'ignore combien d'employés pouvaient travailler dans cette usine. Bon, enfin, c'est certain qu'elle a fonctionné quelques années et qu'elle, donc elle a permis à des gens de gagner leur vie en restant au village. Voilà. Alons, c'était certainement un village qui était assez prospère, puisque en 1872, le conseil municipal demande au sous-préfet l'autorisation d'obtenir sa propre foire annuelle. Vous savez, ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie complètement. On voit encore dans les villages place du foirail, place du champ de foire, etc. Mais on a du mal à comprendre à quoi ça correspond. Ben, et les foires, c'était vraiment le grand moment commerçant pour les villages et les vallées. Et donc c'était important quand un village obtenait le droit d'avoir une, voire plusieurs foires, parce que ça voulait dire qu'il y avait plein de gens qui affluaient vers le village de manière régulière pour commercer. Et donc ça voulait dire de l'argent qui était brassé, des échanges qui étaient noués, et c'était très important. Et là aussi, il fallait demander l'autorisation au préfet, parce que toujours dans un souci pour éviter que d'installer une foire à un endroit génère une compétition avec une foire qui existerait à proximité. Donc en fait, il y a une enquête qui est menée. Le conseil municipal fait une délibération pour dire « nous voulons une foire tel jour », il précise et puis l'objet de la foire. Là, en l'occurrence, ça annonce c'est une foire au gros et menu bétail, mais en fait ils vendent aussi des légumes, des pommes de terre, enfin c'est en fait une foire agricole. Et le préfet ensuite sollicite l'ensemble des maires qui sont à proximité pour savoir s'ils sont d'accord pour que le village en question ait sa propre foire. Là, en l'occurrence, pour Alons, de mémoire, pour avoir regardé les dossiers, tous les maires alentours acceptent, sauf un. Donc finalement, l'autorisation est accordée à Alons de faire sa foire, qui serait le lundi après le 16 septembre de chaque année. C'est très précis. Bon, en fait, c'est lié vraiment aux récoltes et puis aussi aux troupeaux. Voilà, mais je reviens à l'eau, parce que du coup, je me suis totalement égarée. Je suis partie de la Syrie pour aller à la foire. Et donc, l'eau, ben, qui fait fonctionner une scierie, mais aussi qui permet d'alimenter un moulin. Alors là, j'essaie de le retrouver, parce que là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le moulin, ça a été un grand sujet pour l'URSS, voilà, le moulin de Monessargues et de Nirad. Et là, pour certains, il n'est pas à l'URSS, mais il est à Sigons. Pour d'autres, il est à Sigons, mais pas à l'URSS. Bon, en fait, il est bien à l'URSS. Et donc là, nous avons une collègue qui a travaillé sur ce sujet. Alors là, c'est là, typiquement, hein, le moulin ne fonctionne que parce qu'il est sur l'eau. Donc il y a énormément de courriers, parce que là, en l'occurrence, là, on est au milieu du 19e siècle. Le propriétaire veut prolonger son barrage, mais il y a un propriétaire un peu plus haut qui craint que la modification nuise au fonctionnement de sa propre usine. Donc ça discute. Et puis finalement, c'est l'ingénieur des ponts et chaussées qui tranche et qui dit, je cite, « Il est de toute évidence que cette prolongation ne peut être nuisible aux usines de Monsieur Martin et ne peut porter atteinte à ses intérêts que sous le rapport de la concurrence. » Voilà, en fait, voilà, c'est le voisin essaie de trouver des arguments objectifs pour empêcher que le voisin prenne de l'ampleur, mais en réalité, il a peur que ça lui fasse de la concurrence. Et là, les moulins, c'était des enjeux très importants. On a parlé de l'eau, mais un village qui installait un moulin, ça voulait dire que les gens pouvaient aller ou des fois étaient obligés même d'aller au moulin du village pour porter leur grain à moudre. Et là, typiquement, par exemple, au moulin du Pont ou au moulin de Monessargues, à l'URSS, il y a tout un débat. Alors là, on est cette fois-ci au 17e, parce qu'au 17e, le moulin, il appartient à la communauté de l'URSS, qui le vend alors à un fameux monsieur de Monessargues, hein, d'où le nom que le moulin a pris aujourd'hui, début 18e. Et alors l'idée, c'est que cette vente permet à la communauté de rembourser une partie de ses dettes, mais elle n'est pas une bonne affaire pour les habitants, parce que ce n'est plus un moulin communal. Et donc, ils expliquent, les habitants, ils se plaignent, parce qu'ils sont obligés d'aller moudre leur blé dans d'autres moulins, parce que celui de Monessargues, là, qui est devenu privé, exige un prix trop important pour eux. Et donc, les habitants regrettent que le moulin ait été vendu. Donc là, c'est assez amusant parce que finalement, c'est des thématiques qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui, mm-hmm. par rapport simplement à la régie de l'eau, etc. Voilà, finalement, quand ça passe entre mains privées, c'est sûr, ça fait une entrée d'argent frais pour les caisses municipales, mais c'est pas toujours très heureux pour le quotidien des habitants. Donc, vous voyez, on est quand même début 18e. Hein. Là aussi, des grandes permanences dans les thématiques. Voilà, je propose peut-être une petite pause avant de continuer sur la thématique de l'eau. J'ai amené un disque de Massive Attack avec un titre qui s'appelle Man Next Door, le voisin de palier, entre autres. Alors, petite erreur, excusez-moi, Laure, c'était donc pas ce morceau. Je vais voilà, mais non, on aurait pu laisser, mais enfin bon, c'est pas grave, allez, on met le morceau 7, next, Man Next Door. Je dis, je le reconnais pas.
Pardon, Laure, ça y est. Voilà, donc Laure Franek, on poursuit avec la thématique de l'eau, oui, et les catastrophes naturelles.
Ben oui, là, c'est, on a parlé de l'eau qui fait fonctionner les usines, de l'eau qui permet de laver son linge, qui permet de boire, de l'eau finalement sous son côté utilitaire. J'ai pas parlé de l'eau pour l'agriculture, parce que ça, pour le coup, dans les archives, on le voit moins, cet aspect-là, parce que l'agriculteur est obligé d'attendre que l'eau tombe. Hein. Il y a le système d'arrosage électrique au 19e n'existait pas. Mais là, je voulais évoquer, pour terminer sur cette thématique de l'eau dans les Basses-Alpes, c'est effectivement le problème des frontières géographiques qu'étaient les cours d'eau, donc la nécessité de franchir ces cours. Alors, vous savez que pendant très longtemps, sur un certain nombre d'endroits, il n'y avait pas de pont, en fait. Hein, on passait avec un système de barque, hein, de barge. Donc il y avait des passeurs. Hein. Et puis quand même, on a construit des ponts. Mais le problème du pont, c'est que quand il y a... Il faut l'entretenir d'abord, hein, ce qui est un coût à part entière pour les communautés. Alors on parle de communautés au 19e, on ne parle pas de communes. Hein, voilà, c'est pas le terme... Je préfère préciser, parce qu'aujourd'hui, le terme de communauté est connoté. Hein, et il a un sens particulier qui n'est pas le sens historique. Une communauté, sous l'ancien régime, j'ai dit 19e, en fait, sous l'ancien régime, avant la Révolution française, c'est en fait un ensemble d'habitants. Voilà. Donc on appelait ça les communautés. Il y avait des conseils de communauté. Hein, voilà. Qu'aujourd'hui on appellerait le conseil municipal, tout simplement. Voilà, donc c'était un vrai coût pour les communautés d'entretenir ces ponts. Et puis surtout, quand il y avait des pluies diluviennes, des crues, eh bien, très souvent, les ponts étaient emportés. Et donc il fallait reconstruire les ponts ou alors trouver des alternatives. Donc là, typiquement, on a évoqué dans l'ouvrage eh bien, deux villages qui ont été confrontés à ce problème. Moustier, en 1702, il y a eu un très violent orage. Il y a une pluie qui s'est abattue pendant 24 heures au niveau du territoire et qui a rendu vraiment les chemins inutilisables. Et surtout, il y a une crue qui a emporté le pont supérieur et les deux parties du village se sont retrouvées complètement séparées. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus moyen de communiquer. Il faut savoir que le pont inférieur s'est déjà effondré 10 ans plus tôt. Et il y avait en plus, il y a eu des maisons extrêmement endommagées, voire emportées par l'eau. Quoi. Donc de 1723 à 1728, il y a de grands travaux qui sont entrepris, routes, chemins, ponts. On a construit un nouveau cimetière, une nouvelle place. Mais les dégâts qui ont été occasionnés à cette période se devinent encore aujourd'hui. Parce que quand vous allez à Moustier, vous voyez qu'il y a des grands espaces encore de part et d'autre du ruisseau qui traversent le village, alors qu'autrefois, il y avait des constructions tout près du cours d'eau. Quoi. Et d'ailleurs, la place s'appelle Fondue. Vous imaginez bien pourquoi, parce qu'elle a littéralement fondu à la suite de la crue. Et d'ailleurs, au 19e siècle, un érudit local dont on dispose d'un certain nombre d'archives qui s'appelle Jean Solomé avait écrit au sujet de Moustier, je cite, « Tout ce que je viens de dire paraîtra sans doute incroyable à ceux qui viendront après nous en voyant l'affreux et grand abîme d'entre ce qu'on appelait la fondue, lieu autrefois rempli de maisons et le bas des faubourgs. Je n'ai point vu ce que je vais ajouter. » Je ne le sais que par le témoignage constant de nos anciens. C'est que la plus haute partie de la ville, où il n'y a présentement que des maisonnettes et des boutiques, la plupart fermées, était néanmoins ce qu'il y avait de plus riche et de mieux habité, comme étant depuis la porte du Petit Pont, sur la route des muletiers et des marchands qui venaient de Nice, de Grasse et de Draguignan. Donc vous voyez, c'est comme quoi, l'aspect des villages se trouve considérablement modifié, simplement à la suite d'une seule catastrophe naturelle qui vient souvent à la suite de beaucoup d'autres, mais là celle-ci a été fatale et surtout la leçon a été retenue, on a cessé de construire trop près du ruisseau pour éviter à nouveau les dégâts. Un deuxième village a été confronté à une thématique un peu similaire, c'est Noyé. Alors, là, il y a eu moins de dégâts, mais il a fallu après se poser la question de comment on reconstruisait le pont. Donc là, on est en... On est, euh, on, un pont qui a été emporté en 1863 après une crue. Donc on a fini par le reconstruire bon an mal an. Mais bon, en fait, les réflexions successives n'ont jamais vraiment consolidé le pont. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il a été... quand je parle de noyer, c'est noyer sur Jabon. Hein. Donc on s'est posé la question de construire un pont en métal, hein, en espérant que ça tienne. Mais là aussi, on est en fin 19e. Là, on explique que les amarres du pont actuel sont profondément rouillées, parce qu'évidemment, qui dit métal peut paraître éventuellement plus solide par rapport au cru, mais le problème, c'est la rouille. Tous les obélisques sont inclinés vers la rivière, les câbles de retenue ont une disposition irrationnelle et les maçonneries ridiculées sont en état complet de vétusté. Donc là, c'est un ingénieur qui écrit en 1899. Donc, vous voyez, c'est un vrai souci pour les villages. Alors, il y a plusieurs raisons. Hein. Qui dit pont dit facilité de circulation. Et en fait, si vous êtes bloqué par une rivière, c'est comme si vous n'aviez pas de route, vous êtes enclavé. Hein. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'une route est bloquée, tout de suite, c'est la catastrophe. Mais là, vous imaginez, c'était parfois des villages entiers qui étaient coupés en deux parce qu'ils ne pouvaient plus aller de l'autre côté. Donc, ça va être quand même être sacrément difficile de traverser ces épreuves. Et voilà, c'est vrai que les archives témoignent de ça. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est la longueur que prennent les problèmes pour se résoudre. C'est vrai qu'on est dans un temps long dans les archives. Et typiquement, voilà comment, entre le moment où un village décide de faire réparer son pont, son église, de s'alimenter en eau de manière correcte, et le moment où c'est vraiment effectif, il se passe parfois des dizaines d'années. Pour des problèmes juridiques, des problèmes de terrain, des problèmes de finances tout simplement, des problèmes d'autorisation. Et c'est vrai que là aussi, aujourd'hui, des fois on se plaint de la longueur que prennent les choses, mais en fait, c'est pas récent. Hein, et c'est vrai qu'il faut savoir s'armer de patience pour obtenir certaines choses qui paraissent être une évidence, mais qui sont pas si faciles que ça à mettre en œuvre. Voilà, l'histoire rend humble, en fait. Je crois que c'est... Je le répète souvent, ça rend humble, et puis surtout, ça permet de relativiser ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais voilà, il y a quand même des... quand on voit quand même hein, comment les habitants des villages des Basses-Alpes pouvaient vivre, hein, c'était quand même des conditions de vie extrêmement difficiles. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, quoi. Il ne faut jamais l'oublier. Voilà, je vais terminer juste par l'actualité.
Oui.
Là, c'était un peu sentencieux, là, ma fin de... je ne tiens pas à faire la leçon, je tiens tout de suite. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, ça... C'est le principe de l'histoire, hein, ça fait réfléchir. Donc, alors, ce soir, il y a une... on se décentralise aux archives, enfin, on se déconcentre plutôt. Il y a une lecture d'archives à Sauce, la mobile compagnie, donc qui lit des archives consacrées à la vie rurale dans le village. Donc, c'est à la salle polyvalente, c'est l'entrée est libre, et ça se passe ce soir à 18h. Ensuite, le 7 novembre, aux archives cette fois, Jean-Christophe Labadie, le directeur des archives départementales, fera une conférence sur les monuments aux morts basalpins, les monuments aux morts de 1914-1918. Alors, c'est évidemment l'occasion de revenir un peu sur la Grande Guerre, mais c'est surtout là aussi une manière de circuler dans le département, car les monuments aux morts ont été une création, littéralement, un effet rebond, je ne sais pas comment on peut dire, de la Grande Guerre, hein, et que ça a considérablement, là aussi, marqué les paysages de nos villages. On a parlé des fontaines, mais c'est la même chose. Hein. Tous les villages ont un monument aux morts, quasiment tous, il y a quelques exceptions. Mais en général, quand il y a une exception, c'est que le monument a été détruit à un moment donné et jamais reconstruit. Mais à un moment donné, il y a toujours eu au moins une plaque, quelque chose qui marque ce désastre qu'a été la Grande Guerre. Donc la conférence s'axe vraiment... c'est moins de revenir sur les circonstances de la guerre, etc., que d'expliquer en fait l'après-guerre. Et justement, pour paraphraser un grand historien, comment le pays tout entier et notre département comme les autres, c'est couvert de monuments aux morts. Et ensuite, il y aura une autre lecture d'archives, le 10 novembre cette fois, qui est un dimanche, à la salle polyvalente Saint-Michel-à-Marcoux, sur l'immigration italienne dans la vallée de la Haute-Bléone. Et donc là, c'est une lecture d'archives, mais qui fait écho à tout un cycle de conférences qu'on a démarré il y a quelques mois sur l'immigration. Nous avons reçu Madame Homps, la directrice du musée de la vallée de Barcelonnette, qui nous a parlé des Barcelonnettes qui étaient parties au Mexique faire fortune, pour certains. Nous avons reçu, pas plus tard que la semaine dernière, une ethnologue qui travaille avec le musée de la vallée et l'association Sabensa de la Valleja sur l'immigration piémontaise en Ubaye. Donc elle est venue nous présenter le produit de ses recherches. Et ça a été vraiment passionnant. Beaucoup de monde aux archives sont venus l'écouter. Donc là, il y a cette lecture d'archives qui fait écho en fait à cette problématique qui est réelle dans notre département. À un moment de 14-18, c'était les Italiens qui étaient par exemple les plus présents en tant qu'étrangers dans notre département parce qu'ils venaient chercher du travail, ils venaient...
C'est à quelle heure dimanche ?
Alors dimanche, j'aurais pu préciser parce que c'est à 11h. Voilà,
11h.
Voilà. Mmh. C'est une lecture apéritive. Mmh. Voilà, donc ça, c'est à Saint-Michel à Marcoux. Et nous ferons une autre conférence sur la problématique de l'immigration, alors cette fois des Bas-Alpins, dans Louisiane. Parce qu'on parle souvent du Mexique, mais en réalité, il y a aussi beaucoup de Bas-Alpins qui sont partis aux États-Unis, et notamment en Louisiane. Mmh. Et là, ça sera dans un an. On est déjà à programmer des conférences dans un an. Mais voilà, c'est une thématique qui touche vraiment les gens, qui est extrêmement d'actualité, parce que l'immigration, c'est encore un thème tout à fait d'actualité, et on est en plein dedans, et ça risque pas de s'arrêter. Donc voilà, j'invite tout le monde à nous rejoindre. Et merci à tous, merci Odile.
Merci, au revoir.